RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous sommes avec Léon Defontaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du Parti communiste. Dans deux heures maintenant, à 20h10 précisément, le président de la République sera l'invité de nos confrères de TF1 pour une émission spéciale intitulée « Les défis de la France ». Un vaste programme. Pendant donc deux heures, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, ça pourrait être un peu plus, Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes de TF1, mais aussi à celles de plusieurs personnalités, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur en particulier la question des retraites, l'essayiste libéral Agnès Verdier-Molinier sur la dérive des comptes publics, le maire de Béziers, Robert Ménard, sur les questions de sécurité et d'autorité de l'État, ou encore la journaliste engagée à gauche, Salomé Saquet, sur la jeunesse. Est-ce que vous serez devant votre écran de télévision, enfin, votre poste, ou devant un autre écran, parce qu'aujourd'hui on regarde.
Évidemment, je serai devant la télévision, oui. Je suis encore vieux jeu. Oui, je serai bien évidemment devant la télévision, j'attends beaucoup de cette interview. Vous remarquez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu le président de la République s'exprimer directement auprès des Français, être interpellé, qui plus est, par des responsables, on va dire, de la société civile, pour faire rapidement. Et j'attends beaucoup, notamment, de l'interview qu'il aura avec, enfin, de l'échange qu'il aura avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, sur la question des retraites, bien évidemment, sur la question aussi de l'industrie. On a une actualité, ArcelorMittal, qui risque de disparaître du territoire national, en tout cas, qui lance un plan de licenciement. Et moi, j'attends des réponses de la part du président de la République, savoir si on a tout de même un capitaine à bord du bateau France ou si on en a...
Alors, on reviendra dans un instant, notamment sur cette question des retraites. Et vous parlez de capitaine de l'équipe de France. Je vais vous parler de l'équipe d'Europe, moi, puisque la première partie de l'émission devrait être consacrée aux grands sujets internationaux, notamment à l'Ukraine. Or, samedi matin, le président Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer sont arrivés en train à Kiev, puis ont été rejoints sur place par le premier ministre polonais Donald Tusk pour y rencontrer, donc tous ensemble, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il venait en fait y délivrer un message de soutien au peuple ukrainien et réclamer, en accord avec les États-Unis, un cessez-le-feu complet de 30 jours à Vladimir Poutine, sous peine d'une nouvelle vague de sanctions. Donc je parlais de capitaine de l'équipe d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron est en train de s'imposer comme une sorte de leader d'une coalition pro-Ukraine?
En tout cas, j'espère qu'il puisse agir plus fortement sur la question ukrainienne, parce que ce qu'on remarque depuis l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, c'est que finalement, la France, l'Europe, est assez absente des discussions entre Vladimir Poutine et l'Ukraine, notamment autour d'un cessez-le-feu, autour d'un traité de paix. Et depuis ce temps, depuis l'arrivée de Donald Trump, nous avons eu à cœur de dire qu'il fallait à tout prix que la France puisse de nouveau rentrer dans les négociations pour permettre justement de donner des garanties au peuple ukrainien qu'il puisse être respecté. Donc j'ose espérer qu'en effet ce déplacement puisse permettre en effet de remettre la France au cœur des discussions pour permettre au peuple, premièrement au peuple ukrainien, de ne pas être humilié ni par Donald Trump ni par monsieur Poutine, et deuxièmement pour permettre de trouver une paix, je l'espère, durable dans la région, à commencer bien évidemment par le cessez-le-feu. Et donc là je partage en tout point les propositions qui ont été formulées.
Dans la mesure où Donald Trump, c'est ce que disent beaucoup d'observateurs et de spécialiste des questions internationales, a cédé d'emblée beaucoup de choses à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire, précisément, qu'il y ait comme une pôle de fermeté, comme un pôle de fermeté qui s'affirme du côté européen ?
Bien évidemment, et je pense qu'il faut en effet permettre au corps diplomatique français, quand bien même il a été quelque peu démantelé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, de pouvoir aussi rentrer dans la danse, non pas pour voir les intérêts de la France ou de l'Europe, mais avant tout pour défendre aussi les intérêts du peuple ukrainien. Parce qu'une des craintes que nous avons, c'est que ni Donald Trump, ni M. Poutine, et il l'a démontré depuis le début du conflit, avaient grand-chose à faire du peuple ukrainien. Et donc, pour moi, la France, c'est une garantie de permettre de respecter le droit des peuples. Nous regarderons suivons de près les interventions d'Emmanuel Macron. Et en effet, c'est pour cela qu'on demandait à ce que la France et l'Europe puissent agir en faveur du peuple ukrainien. C'est qu'il y avait un risque avec Donald Trump et M. Poutine, c'est finalement qu'ils se partagent l'Ukraine au détriment du respect des peuples. Et je le dis, il n'y aura jamais de paix juste et durable dans la région si le peuple ukrainien est humilié. Donc il faut qu'il puisse être bien évidemment respecté. En revanche, il faut aussi trouver une voie de paix. Donc bien évidemment, il faudrait que tout le monde se mette autour de la table, ce qui, je crois, est en train de se dessiner, et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que vous souhaitez entendre de la bouche du président de la République sur la situation à Gaza ?
Eh bien, moi, j'ose espérer qu'il puisse enfin reconnaître l'État de Palestine, dénoncer, bien sûr, les bombardements de la part de Benjamin Netanyahou, des dirigeants israéliens. Il l'a déjà fait et on l'a salué à chaque reprise. Je ne suis pas de ceux qui critiquent l'ensemble des prises de position. Lorsqu'elles vont dans le bon sens, il faut pouvoir les saluer. J'ose croire et j'ai cru comprendre que le président de la République était prêt à enfin reconnaître l'État de Palestine sur les frontières de 1967, comme le préconisent l'ONU et le droit international. Moi, je souhaite encore une fois sur ce sujet, que la France puisse retrouver la voie originale qui a été la sienne sur ce conflit et permettre de se désaligner de la politique diplomatique nord-américaine, notamment de Donald Trump, et qu'on puisse, un, reconnaître l'État de Palestine, deux, mettre en place des sanctions contre Israël si Israël refuse de reconnaître l'État de Palestine, notamment refuse de se retirer de la bande de Gaza et des territoires occupés en Cisjordanie. Et trois, et c'est un sujet à ne pas négliger, la libération des prisonniers politiques pacifistes. Je pense notamment à Marwan Barghouti, qui est enfermé depuis 2001 dans les geôles israéliennes, alors même qu'il est un leader laïque palestinien. C'est finalement le... Il est souvent comparé au Nelson Mandela palestinien. À lui seul, il pourrait rassembler le peuple palestinien autour d'une ambition d'une paix juste et durable entre Palestine et Israël. Une solution à deux États, c'est, je crois, la position que devrait tenir la France.
Vous employez le terme de génocide pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Si nous sommes vraiment en présence d'un génocide, puisque c'est un terme qui est controversé, si nous sommes vraiment en présence d'un génocide, comment expliquez-vous que le monde ne réagisse pas plus ?
Ah mais le monde réagit beaucoup, le monde européen beaucoup moins et le monde occidental finalement beaucoup moins. Et il réagit moins parce que je crois que depuis trop d'années, nous avons délaissé notre politique internationale aux États-Unis, à travers notamment l'OTAN, et que nous avons perdu notre voix. Nous avons une extinction de voix. À l'époque de Jacques Chirac, je m'en rappelle, que nous avions une capacité de nous désaligner de la voie diplomatique nord-américaine, ce qui avait conduit d'ailleurs la France à ne pas intervenir en Irak. Et je crois que sur le conflit israélo-palestinien, il en va de même. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron puisse prendre autant de temps avant de dénoncer le plus fermement possible, mais surtout de passer aux actes, à des sanctions. On a tous vu les images insupportables en Palestine, dans la bande de Gaza. Nous avons vu que des écoles avaient été prises pour cible directement par les missiles israéliens. Et je trouve ça profondément insupportable, le mutisme dans lequel s'est enfermé notre président de la République. Et donc, je souhaite, et peut-être que l'arrivée de Donald Trump fait comme une piqûre de réaction de la part des dirigeants européens, mais je souhaite qu'enfin on puisse retrouver notre voix. Et en l'occurrence, le fait que le président de la République puisse envisager la reconnaissance de l'État palestinien plus sérieusement que ce qu'il a fait jusqu'alors, démontre peut-être qu'il y a enfin un désalignement qui s'applique, et encore heureux, parce que je pense que nous serions bien fous de laisser les clés à Donald Trump sur notre politique internationale.
On peut supposer qu'il sera question de nos rapports avec l'Algérie ce soir, qui n'en finissent pas de se dégrader, puisque l'Algérie a annoncé hier l'expulsion de 15 nouveaux fonctionnaires français. Il y a tout juste une semaine, c'était le 6 mai, une résolution demandant la libération de l'écrivain Boualem Sansal a été mise au vote et adopté à l'Assemblée nationale, mais les députés de la France insoumise ont voté contre, et les élus communistes, alors ils étaient peu nombreux, puisqu'il y avait 5 membres de votre groupe, dont 2 communistes, mais les 2 élus communistes se sont abstenus. Comment vous, en tant que porte-parole du Parti communiste, vous défendez cette position-là ?
Bon, tout d'abord, il a été clair de la part de nos parlementaires qu'il le fallait à tout prix, il ne fallait pas empêcher l'adoption de cette résolution, parce qu'une de nos priorités doit être la libération, et je le réaffirme sur votre antenne, la libération de notre compatriote enfermé injustement aujourd'hui en Algérie. Et il faut mobiliser tout notre corps diplomatique pour pouvoir agir le plus rapidement possible sur sa libération. Ce que j'observe, c'est que le groupe Gauche démocrate et républicaine dans lequel siègent les communistes, certains ont voté pour la résolution, d'autres se sont abstenus.
Il était bien évidemment... Emmanuel Morel,
tout à fait, qui a voté en faveur, qui était présent d'ailleurs sur la liste que je menais aux élections européennes. Et moi, je salue cette position. Si j'avais été député, j'aurais voté avec lui, parce que je pense que c'est profondément insupportable d'avoir un de nos compatriotes qui est enfermé aujourd'hui en Algérie par un gouvernement qui fait fi, finalement.
Donc, il vous est difficile d'expliquer pourquoi les deux communistes ont sont abstenus.
J'ai pu discuter avec certains qui travaillent à l'Assemblée nationale. Il reprochait notamment à ce texte de finalement mettre de l'huile sur le feu sur les relations que nous entretenons aujourd'hui avec l'Algérie. Et justement, il disait que si vous voulez agir pour la libération de M. Sansal, il fallait au contraire permettre de renouer de dialogue avec le gouvernement algérien. Finalement, si c'est une abstention, c'est juste parce qu'il y avait une forme d'incohérence de la part de ce texte qui disait, un, qu'il fallait libérer à tout prix, agir pour la libération de notre compatriote enfermé injustement, je le répète, en Algérie, et deux, le fait que finalement, en aggravant les tensions avec le gouvernement algérien, on risque de rendre plus compliqué sa libération.
Alors, il y a un autre écrivain qui est dans le viseur des autorités algériennes, c'est Kamel Daoud, qui est sous le coup de deux mandats internationaux émis par l'Algérie. Kamel Daoud, qui en a gros sur le cœur, et qui s'est livré dans le Figaro, et qui disait la chose suivante: en Algérie, je suis un traître. En France, j'ai l'impression qu'on me reproche de ne pas être un bon arabe, c'est-à-dire un arabe victimaire qui vit dans la haine de la France. Est-ce que vous comprenez ce qu'il éprouve? Est-ce que vous vous sentez solidaire de Kamel Daoud?
Encore une fois, moi, je peux ne pas partager les propos de certains dirigeants, mais pour autant, je ne suis pas favorable à leur enfermement, et je comprends tout à fait les peines qu'ils peuvent vivre lorsque, finalement, on juge qu'ils devraient rentrer dans telle ou telle case. Parce que, finalement, rentrer dans telle ou telle case, c'est le contraire de la liberté d'expression, et j'ose espérer que la France, quand bien même des fois on a tendance à l'oublier, reste une patrie des Lumières, qui reste attachée à la liberté d'expression, au débat contradictoire, et en l'occurrence, même si on peut avoir des désaccords, d'ailleurs j'en ai avec lui, j'en ai aussi avec M. Sansal, c'est pas pour autant qu'ils devraient être enfermés, au contraire, on devrait pouvoir les laisser s'exprimer.
Venons-en donc aux questions économiques et sociales. Je le disais, Emmanuel Macron débattra ce soir avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Est-ce que le président de la République va pouvoir dire autre chose ce soir que cette réforme des retraites était une impérieuse nécessité?
J'espère pas, parce qu'il l'a déjà dit. Et faire
j'espérais qu'il
mission,
puisse dire autre chose.
J'espère que, oui, tout à fait. J'espère qu'il pourra dire autre chose que ce qu'il a finalement toujours dit jusqu'alors. Ouais. En l'occurrence, je crois savoir que le président de la République serait favorable à consulter les Français directement par voie référendaire, avec des référendums sur un certain nombre de sujets. Et j'ose espérer que la question de la réforme des retraites, à défaut d'avoir été votée à l'Assemblée nationale, eh bien, puisse être tranchée par les Françaises et les Français, et qu'il puisse mettre en débat. S'il est si sûr de lui sur l'impérieuse nécessité de mettre en place la retraite à 64, 66 ans ou une autre réforme par capitalisation ou autre, eh bien qu'il initie le débat avec les Français. Nous le disons au Parti communiste, nous n'avons pas peur de débattre avec les Français, de débattre avec les autres responsables politiques sur l'impérieuse nécessité de défendre une autre réforme des retraites qui soit plus juste, et notamment l'abrogation de la réforme actuelle. Et donc j'espère et je sais que Mme Binet lui demandera justement de revenir sur cette réforme des retraites, et nous demandons en tout cas que si référendum il y a, eh bien il puisse être en priorité sur cette réforme des retraites qui, je crois, est rejetée par l'écrasante majorité des Français, non pas qu'ils sont inconscients, parce que tout le monde a conscience de notre système de sécurité sociale, mais juste en disant que peut-être il y a d'autres sources de financement qui sont possibles.
Alors, de référendum, il pourrait en effet en être question ce soir, enfin, c'est l'incertitude à ce sujet. Le président de la République pourrait annoncer que les Français vont être consultés sur un ou plusieurs sujets. On évoque, par exemple, l'organisation territoriale, le sujet du réarmement, ou encore la fin de vie. Sur le principe, vous êtes favorable?
Je suis très favorable à ce qu'on puisse consulter les Françaises et les Français. Après, c'est pas la première fois que le président de la République initie un dialogue avec les Français et qu'il ne le respecte pas derrière. On a tous en tête la grande consultation citoyenne à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, qui n'a mené à pas grand-chose, malheureusement, qui a été une fraude démocratique. Et on se souvient aussi tous, alors c'était pas le président de la République actuel, mais du dernier référendum, je n'étais pas en âge de voter, mais je m'en rappelle, 2005, sur le traité constitutionnel européen. La dernière fois que les Français se sont exprimés par voie référendaire, eh bien cette voie n'a pas été respectée lorsqu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas du traité constitutionnel européen, qu'ils ne voulaient pas de ces traités européens libéraux qui mettront à mal, et la preuve en est aujourd'hui, notre industrie. Eh bien, les gouvernements qui s'en sont succédés ont fait fi finalement de la décision des Français de ne pas adopter ce TCE, le TCE. Et donc j'ose croire et j'ose espérer que si référendum il y a cette fois-ci, il puisse être réellement appliqué, qu'on puisse réellement écouter.
Alors en effet, il y a incertitude sur la question de savoir s'il y aura un référendum, et ça pourrait être l'option consultation, en effet, sur différents sujets. Dans ce cas-là, je crois avoir compris que vous soutiendriez moins cette initiative.
C'est pas possible.
Parce qu'elle n'aurait pas, elle ne déboucherait pas sur, nécessairement sur une traduction législative.
Et ça, ce serait dramatique. Encore une fois, Emmanuel Macron nous démontrerait qu'il n'en a que faire de la décision des Françaises et des Français. Donc moi, je le dis, si référendum il y a, les décisions qui sont prises par les Français, les Françaises et les Français doivent être respectées. Maintenant, j'espère que les sujets qui seront abordés par ces référendums puissent être réellement des sujets qui préoccupent nos concitoyens. J'ai parlé de la question des retraites. Je pense que cette question-là est primordiale et elle doit être posée.
La question de la fin de vie, est-ce que ce n'est pas un sujet à propos duquel il y aurait une pertinence particulière aussi à organiser un référendum, puisque chacun peut y être confronté ou y sera confronté.
Ça touche l'intime des personnes. On voit que d'ailleurs, la plupart des mouvements politiques sont assez tiraillés sur ce sujet. Moi, je suis plutôt favorable, en effet, qu'il puisse y avoir un référendum sur ce sujet. Faut-il encore qu'il n'y ait pas de contradiction entre les discussions qui ont lieu par les représentants de la nation au Sénat et à l'Assemblée nationale, et qu'en parallèle, il y a un débat avec les Françaises et les Français. Si référendum il y a, alors il faut engager un processus législatif référendaire avec les Français et mettre de côté, du coup, les débats qui sont actuellement à l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire le livre dont on parle beaucoup, consacré à la France insoumise, et en particulier à Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement Jean-Luc Mélenchon, ce livre « La meute ».
Je n'ai pas pu le lire, étant donné qu'il y a une rupture de stock dans la plupart des librairies. En revanche, j'ai lu de nombreux extraits, on m'a envoyé de nombreux extraits, en effet. Bon, c'est assez accablant pour la France insoumise. Je découvre des choses alors que, personnellement, mon parti, mon secrétaire national, Fabien Roussel, moi, personnellement également, j'ai déjà été concerné par des vagues de harcèlement de la part de militants et du premier dirigeant de la France insoumise. Ce sont des pratiques, je le dis, qui ne sont pas acceptables, des pratiques qui sembleraient se dessiner autour d'une secte. En tout cas, c'est le vocable utilisé par les deux auteurs de ce livre. Mais surtout, ce que je dis, c'est que la gauche a besoin de faire rêver de nouveau, et c'est pas comme cela qu'on s'y prendra. Ouais.
Et précisément à la lumière des enseignements que vous pouvez tirer de cette lecture, est-ce que vous vous demandez, peut-être plus qu'avant, si des accords électoraux seront encore possibles avec LFI dans l'avenir ?
Avec les dirigeants de la France insoumise, honnêtement, je ne le sais pas. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on puisse réinventer quelque chose d'autre à gauche.
Quand vous dites avec les dirigeants, mais c'est avec qui d'autre sinon ?
Eh bien, je sais que par contre, il y a des élus insoumis.
Ce qui veut dire que pourquoi pas des alliances locales ou municipales, mais pas d'alliances nationales.
Mais encore une fois, il faut regarder en effet les militants et les élus. Et d'ailleurs, moi, je connais nombre d'élus insoumis qui ont témoigné, d'ailleurs dans ce livre, qui sont toujours avec l'étiquette France Insoumise, mais qui reprochent les pratiques et les agissements de leurs dirigeants. En tout cas,
mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas des braves gens dans tous les partis ? Parce que ça reviendrait à ça,
Probablement que si, et c'est bien pour ça que les élections municipales sont intéressantes, c'est qu'elles se construisent bien sûr avec les partis, mais aussi au-delà des partis. Et d'ailleurs, il y a des gens très pertinents qui ne sont pas membres de partis, et il va falloir travailler avec eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir réinventer quelque chose à gauche.
Merci Léon De Fontaine, c'est la fin de cette émission. Merci, à la semaine prochaine. Et merci à Flore Simon et à Camille Nérand qui m'ont aidé à la préparer. Bonne soirée.